Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Quant à moi, je suis ravi de vous retrouver dans notre rendez-vous quotidien. Nous sommes le mercredi 2 juin 2021. Il fait gris dans le Beaujolais, il y a des averses de temps en temps. On espère toujours quelques éclaircies cet après-midi annoncées par Météo France, mais rien n'est moins sûr. Quant aux températures, eh bien, elles devraient monter aux alentours de 23 degrés. Quoi de beau dans notre émission du jour? Eh bien, une rubrique du prof Patrick, comme chaque mercredi. Et une rubrique ciné aussi, bien sûr, qui nous sera présentée par Pauline Lavenir. Avant ça, eh bien, on va déjà un peu à l'école. C'est notre invitée du jour qui nous y emmène. Sylvie Calais est venue nous présenter son dernier livre, Ceux du CAP. Une série de portraits d'élèves, d'adolescents en CAP électricité et chaudonnerie, suivis durant toute une année, tous des garçons. On y découvre différentes personnalités, différentes histoires, des portraits touchants, parfois même souvent drôles. Parce que Sylvie Calais sait faire preuve de beaucoup d'humour. En tout cas, elle évite avec brio tous les clichés et on se croit rapidement en salle de classe avec les élèves. Ceux du CAP, Sylvie Calais nous présente son livre dans quelques instants. Avant de parler de cette série de portraits, on écoute un peu de musique, Hocus Pocus et Elodie Rama avec le titre Portrait. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14 et 45 secondes. Merci d'être avec nous.
Tu cliques sur play, sa bombe artérielle vibre à chaque fois que tu y prêtes l'oreille. Il a sauté sur les genoux de George Clinton, taxé les basses de Bootsy et les aigus de Minnie Riperton. Maîtrise comme personne le jeu de jambes de Jackson et le toucher de Duke Ellington. T'étonnes pas si une bonne somme de gens ne lui donne pas ses 40 automnes vu ses airs de jeune homme. Il a eu des hauts, des bas, des idéaux déjà tombés à l'eau. Dans des vidéos, n'a pas trouvé les mots, pas trouvé ses mots dans un dédale de faux débats. Tu l'as aimé, détesté, mixé et cloné tellement qu'il a le corps et l'esprit sectionné. Il a fait sonner, façonner les mots de sa langue maternelle comme les notes d'un dialecte universel.
Age of everything, this is what I am, this is what I am, this is what I am. Age out of everywhere, this is who I be, this is who I be, this is who I be, my soul.
We make the best music we can and then we hope to have everybody enjoy it.
We do hip-hop music piece by piece in other people's records.
Turntables, samplers, creating your music.
Music is a universal language.
We don't do old school music, we don't do new school music, we do hip-hop music.
Le jeune homme a vu du pays bien évolué depuis ses années. Né un demi-siècle après ses aînés, leur portrait craché, les yeux, les mains et la matière grise. À 5 piges, déjà le groove des JB's. Dans le move et le showbiz, à l'adolescence, égaré, il se disperse dans tous les sens. Fiesta, Bella, à peine 15 ans, il rêve déjà de la libido de son oncle Vella. Mais il a l'âme d'Ella, la force de Mandela, le cœur de ses cousins du Mali et ses frères d'Angola. Le slow dit de lui qu'il est speed, il a le souffle de Coltrane et dit qu'il est speed. Dynasty lui fait visiter l'hexagone. Aujourd'hui il renaît après quelques années sous méthadone. On l'a dit décédé mais il vit dans ma MPC. Il est le passé, le présent et le futur métissé.
Age of everything, this is what I am, this is what I am, this is what I am. Age out of everywhere, this is who I be, this is who I be, this is who I be, my soul.
Tell you what.
what it's all about.
Elodie Rama sur Calad avec un titre qui s'intitule Portrait.
Ensemble sur Calad.
Allez, tout de suite, on retrouve notre invité du jour. Il s'agit de Sylvie Calais. Bonjour.
Bonjour.
Sylvie Calais, vous êtes écrivaine, coach en écriture, animatrice d'ateliers d'écriture, rédactrice, formatrice et encore bien plus encore.
Oui. Je suis surtout écrivaine et tout le reste, je le fais aussi pour partager mon plaisir des mots et puis aussi pour dégager un petit salaire.
Vous avez commencé l'écriture, c'était en 2005, premier roman.
Ouais, le premier roman, oui, paru en 2005. C'était Patin Couffin, une expression de mon sud.
Et ça parlait de quoi, Patin Couffin ?
Oula, c'était l'histoire d'une vieille dame qui avait un peu des soucis avec sa fille de 40 ans, avec un secret de famille à la clé.
Vous êtes aussi animatrice de radio. Je vous vois parce que j'ai l'habitude derrière ce micro de vous voir la personne en face de moi, mais on se tutoie à côté parce qu'on a déjà fait des émissions de radio ensemble.
Ouais, on a déjà fait des émissions ensemble. Après, j'en ai pas animé tant que ça, 3-4.
Et toujours sur des choses littéraires. Coach en écriture, c'est une autre casquette. Vous aimez bien transmettre le.
Alors, la transmission, c'est plutôt dans l'animation d'ateliers d'écriture. Après, le coaching, bon, c'est un terme à la mode, mais ce qui veut dire accompagner les personnes dans leur projet d'écriture, alors quel qu'il soit, hein, ça peut être l'écriture d'un roman, ça peut être l'écriture d'une autobiographie, d'un récit. Là, je suis en train d'accompagner quelqu'un qui écrit ses mémoires, mais par rapport à son passé de footballeur et d'éducateur sportif.
D'accord. Voilà. Ça permet de faire des projets que vous n'auriez, j'imagine, pas imaginé, justement.
Ouais, c'est pas mon projet à la base, c'est vraiment leur projet, et je tiens à ce que ça reste le leur, mais j'essaie effectivement de les accompagner à la fois par rapport au style, par rapport à l'orthographe, par rapport à la construction aussi du récit. Et puis c'est vrai que je m'associe avec une graphiste souvent qui gère la mise en page, qui l'impression avec un imprimeur. Et donc on a réalisé des ouvrages assez sympas pour des personnes demandeuses.
Donc vous animez des ateliers d'écriture, c'est Écriture et Papyrus, c'est ça ?
Alors j'anime avec l'association Écriture et Papyrus qui est à Villefranche, qui a été créée en 2002, donc aura 20 ans l'an prochain.
Ouais.
Et j'anime à la fois in situ, donc on a une programmation annuelle. Et puis j'anime aussi hors les murs. Par exemple cette année j'ai eu la chance d'animer avec beaucoup de scolaires, pardon, des CM2. Ouais. Des secondes, et puis parfois dans des entreprises, des associations, enfin des médiathèques aussi.
Ouais, cette année on a pu vous voir passer à la médiathèque pour la semaine littéraire.
Oui, pour la semaine littéraire, je suis intervenue à la fois à Villefranche, à Jassan, à Glézé, où je suis intervenue dans plusieurs endroits.
Et ça peut être là c'est des choses ponctuelles, c'est une demi-journée, c'est ça ?
Oui, pour la semaine littéraire c'est ponctuel puisque c'est une fois par an et c'est des séances de 2-3 heures. Ouais. Après j'ai des ateliers réguliers aussi avec mon association et puis des stages ponctuels, c'est assez varié. Puis j'ai des intervenants qui viennent aussi animer des stages, on va dire à thème comme la poésie ou les chansons.
On va s'intéresser aujourd'hui, vous venez en tant qu'écrivaine pour nous présenter ceux du CAP, c'est un recueil de portraits.
Oui, on peut dire ça, c'est un recueil de portraits d'élèves que j'ai pu côtoyer pendant toute une année.
Alors parmi toutes vos publications, il y a de nombreux romans. Principalement, il y a toutes sortes de choses, des recueils de textes un peu plus courts, humoristiques parfois.
Oui, il y a deux recueils humoristiques illustrés par deux artistes peintres.
Ouais.
Et puis il y a des romans, effectivement. Il y a aussi des polars plutôt humoristiques, une trilogie. Ouais. Et il y a ces récits-là, ce genre de récits-là.
C'est le troisième de ce genre. Le premier, vous étiez dans une maison d'arrêt pour ados en 2008.
Oui, en fait, j'étais à la maison d'arrêt de Villefranche, mais à l'époque, ils accueillaient encore ce qu'ils appelaient le quartier mineur.
Ouais.
Et donc là, j'ai été sollicitée pour animer une activité de sensibilisation à la lecture. Et j'ai réalisé de courts portraits des jeunes que j'avais rencontrés durant toute une année. Et puis ensuite, j'ai été sollicitée aussi à Lyon pour raconter la vie de dames qui sont dans un foyer pour personnes handicapées, mais qui s'appelait autrefois l'établissement de charité pour jeunes filles incurables, et qui m'ont raconté leur arrivée, pas toujours souhaitée, pas toujours voulue, pas toujours choisie, dans ce lieu. Et elles y ont passé toute leur vie, puisque quand je les ai interviewées, elles avaient entre 80 et 95 ans.
Ouais. Et elles étaient arrivées des fois, vous me disiez, en antenne à 4 ans
Bah, la plus jeune à 4 ans, 9 ans, 10 ans, 14 ans, voilà, dans ces eaux-là, quoi, enfant ou adolescent, préadolescente ou adolescente.
Donc, le premier ouvrage, c'était Les mots derrière le mur, et celui dont vous nous parlez, c'était Les murs noirs.
Oui, il y a une histoire de mur, parce que j'aime bien aller voir ce qui se passe derrière les murs.
Et là, vous êtes allée dans les murs d'un établissement scolaire.
Ouais.
Pour ce livre, ceux du CAP. La démarche, ça a commencé comment, ce processus d'écriture ?
En fait, comme je me suis retrouvée dans un milieu que je ne connaissais pas bien, puisque ces élèves-là, moi, je ne les avais pas vraiment côtoyés. C'est vrai qu'ils m'ont beaucoup intéressée, m'ont beaucoup interpellée. Et j'ai commencé à prendre des notes comme ça.
C'est peut-être une habitude,
oui,
un réflexe.
Oui, c'est un peu une habitude, voilà, c'est un peu une déformation professionnelle. Prendre des notes de ce qui, de ce qui m'intriguait, de ce qui me touchait. Et puis, l'année d'après, à partir de ces notes, j'ai écrit un seul portrait que j'ai pu lire à la librairie des Marais pendant une soirée avec Mohamed El Amraoui, là, qui a écrit la quatrième de couverture, qui m'accompagnait au djembé. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu des réactions assez fortes, des gens qui ont paru émus, touchés, et dont deux dames qui sont venues me dire « Mais où est-ce qu'on peut trouver ces portraits ? Est-ce qu'il y a un livre qui existe ?» Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas écrire d'autres portraits à partir des notes que j'ai, et voilà, donner à voir un panel un peu diversifié de ces jeunes élèves.
Et donc, avant la première écriture, il y a eu un an de notes quasiment
Il y a une année de notes, il y a un petit temps de répit, et puis il y a eu l'écriture de ce premier portrait, et ensuite, j'ai repris mes notes, puis mes souvenirs aussi, et voilà, j'ai écrit cette dizaine de portraits.
Et donc dans le livre, on est dans une classe de CAP chaudronnerie et électricité.
Alors, c'est trois classes différentes.
D'accord.
En fait, c'est un mixte. Et il y avait deux classes de CAP électricité et une classe de CAP chaudronnerie. Il y avait à la fois première et deuxième année. C'est pour ça que c'est ce qui explique qu'il y a des âges différents aussi.
Ouais. Il y a une dizaine de portraits. Comment est-ce que vous avez choisi parmi tous les élèves que vous avez pu croiser? C'est ceux qui vous ont touché, qui
Je pense que c'est ceux dont je me souvenais le mieux, ceux sur lesquels du coup j'ai pris le plus de notes, parce que je pense que c'est ceux qui m'ont le plus interpellée.
Ouais.
Et puis je voulais, j'aurais pu écrire d'autres portraits, mais ils étaient un peu ressemblants. Je voulais quand même que ça soit très très diversifié, que ce soit un panel un peu. Des portraits, des profils différents.
Il y a eu une intention derrière tous les portraits quand vous les avez regroupés. Vous avez voulu montrer quelque chose en.
J'ai voulu montrer un peu ce que j'avais ressenti, c'est-à-dire qu'on a tous des a priori, des préjugés. Donc il y avait ça, de montrer que. De lever ces a priori-là, ces préjugés. Et puis de montrer aussi un petit peu, vraiment la diversité des cultures, des milieux sociaux, des milieux familiaux. Et puis aussi, j'ai eu envie, alors ça je le dis dans le prologue, de dire à quel point j'ai trouvé que les profs en CAP étaient investis, étaient vraiment formidables.
Ça vous redonne confiance en, je sais plus comment.
En l'éducation nationale. Alors, ceci dit, j'interviens aussi beaucoup en lycée général. Il y a des profs très très bien en lycée général. C'est pas du tout. Mais c'est vrai que ces profs-là, pédagogie participative, pédagogie positive. Jamais ils cassent un élève, entre guillemets, sont toujours là pour les encourager, les aider, les aider à aller un peu plus haut. Ils sont très respectueux, ces profs, de ce que ces élèves sont, quelle que soit leur croyance, leur culture, leur religion.
Ouais.
Ce n'est pas toujours facile, parce qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Et ils ont beaucoup de patience, ils préparent beaucoup leurs cours, ils essayent de vraiment multiplier les médias, on va dire, pour faire passer les choses.
Ouais.
Et vraiment, j'ai beaucoup aimé être cette année-là avec eux.
On se sent dans la classe, on rencontre des élèves qu'on a peut-être pu rencontrer aussi. Il y a le profil de l'enfant un peu turbulent,
oui.
qui apparaît. Et finalement, en lisant le livre, on comprend pourquoi il est turbulent, alors qu'on ne s'arrête pas à ce premier abord.
Oui, on peut se dire qu'il y a une histoire derrière, et voilà, il y a tout un passé, ou il y a tout un milieu dans lequel l'élève évolue, et effectivement, ça peut, c'est pas une histoire d'excuser les choses, mais ça peut expliquer des choses.
De comprendre les choses. Et pour avoir ces histoires et ces vécus, parce qu'il y en a dans ce livre, vous avez dû discuter avec eux, vous leur avez dit
Non, je leur ai pas dit que j'étais écrivaine, parce que à la base, j'avais pas prévu d'écrire sur eux. Et effectivement, j'avais un rapport un peu privilégié avec eux. Donc, certains ont vraiment discuté avec moi. Et puis, parfois, ils discutaient entre eux. Ils ne faisaient pas trop cas de moi. Donc, moi, j'avais la chance d'être à la fois avec eux pendant les cours, mais aussi pendant les intercours, en off. Bon, comme ça se passait bien, voilà, ils discutaient sans filtre entre eux. Et du coup, j'ai appris des choses. Mais c'est vrai que... Il y en a qui sont venus aussi soit discuter parce qu'il y a des choses qui les travaillent, soit se confier parfois. Après je respectais hein, quand ils avaient pas envie de me parler hein. C'est important.
Ils sont tous anonymes dans le livre.
Oui.
Et
important. Oui, ils sont tous anonymes hein, j'espère que ça a une portée un petit peu universelle. Voilà, c'est un peu des types d'élèves, on va dire.
Ouais.
Après, bien sûr, ils ont tous leur singularité aussi.
Ils ont leur nom. Il y a le liseur, reggae man.
Oui, par rapport à des petites choses qui m'ont marqué chez eux. Voilà.
Et puis, entre chacun de ces portraits, il y a des bulles. C'est des petits morceaux de cours, des petits instants.
C'est des petits instants de cours. Quelquefois c'est des petites perles, quelquefois c'est juste des petites ponctuations comme ça, un peu qui m'ont fait sourire ou rire parfois, ou par rapport aux cours qui suivaient, à leurs réflexions qui m'ont paru très étonnantes aussi quelquefois.
Ça aide à s'immerger, je trouve, vraiment. À être dans la salle de classe.
Oui, parce que là, c'est vraiment eux qui parlent, pour le coup. Et ça, j'avais vraiment noté aussi, parce que...
Il y en a une qui m'a fait sourire, je peux la...
Oui, bien sûr.
Bulle féministe, cours de PSE sur le thème des IST et de la contraception. L'enseignante projette au tableau une image représentant un stérilé, un élève inquiet. Oula, ça doit faire mal à l'homme, ça. Un peu plus tard, l'enseignante projette un dessin d'anneau vaginal. Le même élève rassuré. Ah, c'est bien ça, ça fait une cible à l'homme. Au moins, il est sûr de bien viser. Conclusion de l'élève à l'issue du cours. Ça doit quand même être stressant, la vie chez une femme.
Et puis, il était très, très sérieux. Hein. C'était pas... Parce que,
voilà, c'était pas pour plaisanter.
Mais non, ce sont des adolescents et ça les stresse aussi. Hein. C'est cette histoire de sexualité.
Ouais, cette question-là.
Ouais. Et puis, ces cours de PSE étaient vraiment géniaux. Hein. Bon, parce que, voilà, la prof abordait vraiment tous les sujets qui peuvent intéresser les élèves, la sexualité, l'alimentation, le dopage, le sommeil, etc. Elle répondait à toutes les questions sans jamais... Il n'y avait jamais de moquerie, il n'y avait jamais de... Voilà. Et du coup, les élèves se sentaient vraiment libres de... Ouais. Voilà,
de s'exprimer, de poser
des questions. Et puis, elle abordait aussi des sujets qui concernent les filles, mais ceux qui avaient une copine, même ceux qui n'en avaient pas, qui pensaient en avoir une un jour, étaient très intéressés. Et c'était bien, je trouvais, de les sensibiliser aussi à la cause... parce que c'était que des garçons, mais à la cause féminine, on va dire.
Donc ceux du CAP, ce récit, ce recueil de portraits, il est publié aux éditions du Poutan.
Oui.
Vous le présentez ce vendredi à la librairie des Marais.
Voilà, vendredi 4 juin de 17h à 19h. Et puis le lendemain aussi au Cuvier, qui est le local des éditions du Poutan, à côté de Induscopie, la boulevard Gambetta, à partir de 18h30.
Très bien, les rendez-vous sont donnés. Je crois que c'est votre troisième publication cette année, quasiment. Entre le recueil de...
Sur les deux années qui viennent, c'est la troisième, je ne sais plus. Ouais, parce que 2020-2021, je ne sais plus.
On est un peu perdu.
Ouais, je ne sais plus. Mais les deux autres, c'était des recueils humoristiques. Un peu plus léger, un peu plus light.
Ouais. Merci beaucoup, Sylvie Calais, d'être venue nous présenter ce livre.
Merci, Mathieu.
On va se quitter en musique. On était dans l'univers de l'école. Voici un classique, c'est Supertramp avec School.
I can see you in the morning when you go to school. forget your book, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work, and be like Johnny Too Good. Don't you know he never shirks? He's coming along.
Et c'est un classique, on était obligé de l'écouter jusqu'au bout. School de Supertramp.
L'expansion économique, c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Allez, avec nous en studio, le prof Patrick pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Ça va bien en forme ?
Ça va, l'été arrive, on est content, tout va bien.
Bon alors, de quoi est-ce que vous nous parlez ?
Ah, aujourd'hui c'est le suspense, je vais pas dévoiler tout de suite, je vais y venir petit à petit, tu vas voir.
Très bien, on vous écoute.
Alors je commence. Mathieu, on a l'habitude de considérer que le point de vue des gens de droite sur les êtres humains est plutôt un point de vue pessimiste. On peut penser pour ça, pour illustrer ça, à une réplique d'un film célèbre dans lequel un personnage joué par Jean Gabin, le film s'appelle La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, Jean Gabin qui s'adresse à deux boutiquiers qui font du marché noir. Voilà ce qu'il dit Jean Gabin, je vais essayer d'y mettre le ton. 50 ans chacun, 50 ans de conneries, qu'est-ce que vous faites sur Terre tous les deux? Vous avez pas honte d'exister, salaud de pauvre? Je joue bien Jean
pas
Gabin.
Mal,
hein.
Pas mal, on y est.
Réplique célébrissime, symbolique des anards de droite.
Salaud de pauvre.
Voilà, exactement. Et bon, on a l'habitude aussi de considérer que la gauche rassemble ceux et celles qui pensent qu'on peut changer la société, qu'on peut l'améliorer, qu'il ne faut pas se contenter de l'existant. Bref, un point de vue plutôt optimiste. D'accord ? Parce que la personne de droite, elle n'y croit pas un instant qu'on puisse améliorer la société. Elle est pessimiste, la personne de droite. Sauf que, j'ai toujours un petit sauf que pour mon cher Mathieu.
Il arrive vite aujourd'hui.
Ouais, il arrive rapidement aujourd'hui. Sauf qu'il me semble que les choses ont changé depuis quelques années. Et j'en suis venu à me demander s'il ne serait pas nécessaire d'intervertir les deux postures. D'où ma question qui est le titre de ma chronique aujourd'hui. L'optimisme est-il de droite ?
C'est pas mal comme question.
Et voilà. On y va ?
Allons-y, je suis curieux maintenant.
Ouais, c'est parti. L'élément déclencheur de cette chronique, en fait, c'est un dossier d'une revue excellente qui s'appelle Books, livre au pluriel en anglais. Un mot sur cette revue, elle sort tous les deux mois et elle contient uniquement des articles de la presse étrangère, principalement anglo-saxonne. C'est une façon de décentrer notre regard et de découvrir les débats hors de l'hexagone. C'est une revue qui est vraiment remarquable. Le numéro de mai-juin de cette revue annonce un dossier qui est intitulé « L'optimisme est-il un vilain défaut ?» Alors on y trouve notamment la critique de deux essais que je vais vous présenter maintenant. Le premier essai est intitulé « Le triomphe des Lumières » et c'est écrit par Steven Pinker. C'est un auteur qui est un Américain, spécialiste des sciences cognitives. Dans cet ouvrage, il s'attache à retracer les grands acquis de notre société depuis le 19e siècle. Avec des faits, avec des chiffres, bref, du solide pour appuyer sa démonstration. Que ce soit dans la santé, dans la richesse, dans la paix, les droits de l'homme, dans tous ces domaines et bien d'autres, la situation s'est améliorée spectaculairement et continue encore de s'améliorer, même sur la période récente qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire depuis les années 80. Et tu sais quoi, Mathieu ? Il a totalement raison.
Ouais.
Ouais, tout à fait. Alors, à côté de ça, ce qui l'énerve, Steven Pinker, c'est que malgré tout ça, la majorité de la population et des médias vit dans une atmosphère extrêmement pessimiste. On est assez d'accord, hein ?
Oui, oui, oui.
Quand on fait des tests tout bêtes, hein, des tests psychologiques, on obtient en très grande majorité des réponses pessimistes. Alors on va faire un petit jeu pour illustrer ça. Mathieu, comment le nombre de décès par an dus aux catastrophes naturelles a-t-il évolué depuis 100 ans ? Trois réponses possibles. Réponse A, il a plus que doublé. Réponse B, ce nombre est resté à peu près identique. Réponse C, le nombre a chuté à moins de la moitié.
Bah, j'imagine que ça a diminué, qu'on gère mieux.
Voilà, mais c'est normal, tu es influencé par ma chronique. La majorité de la population répond A ou B. Et réponse vraie, c'est la réponse C, il a chuté à moins de la moitié. Autre exemple, au cours des 20 dernières années, les années de la mondialisation néolibérale, les affreux néolibéraux, hein, d'accord, la proportion de la population mondiale qui vit dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec seulement moins d'un dollar par jour, cette population a, réponse A, presque doublé, réponse B est restée à peu près la même, réponse C a presque diminué de moitié.
Là, c'est plus difficile.
Ok, tu t'es trompé, elle a presque diminué de moitié.
Ah ouais ?
Ouais, tout à fait.
Donc ça va mieux ?
Ça va mieux, globalement. Voilà. Alors, on va parler maintenant du deuxième essai recensé dans la revue Books. C'est un livre d'un Danois qui s'appelle Bjørn Lomborg. Ce monsieur est statisticien et politologue. Et son livre s'appelle « Fausse alerte ». Avec un sous-titre que je vais te citer, alors là, reste assis, tiens-toi bien. Comment la panique liée au changement climatique nous coûte des milliards, nuit aux pauvres et ne permet pas de réparer la planète. Incroyable, non ?
Ah oui, c'est, ça a l'encontre de beaucoup d'idées.
Exactement. Alors attention, hein, Bjørn Lomborg ne nie absolument pas le réchauffement climatique et ne nie pas non plus son origine humaine. Ce n'est pas un abruti de climato-sceptique.
D'accord, ouais.
D'accord ? Mais, tout comme Steven Pinker, il utilise des faits, des données scientifiques qui proviennent des rapports du GIEC, hein, donc du solide, et aussi d'un rapport de l'administration américaine sur le climat, c'est du solide également. Tout ça pour prouver ses dires. Alors il nous donne tout un tas d'exemples, je vais t'en donner un parmi tant d'autres. Le niveau de la mer a augmenté de 30 cm en 150 ans, d'accord ? Mais, dit-il, scientifiquement, rien ne permet d'affirmer ou d'infirmer que les inondations qui en découlent soient en augmentation, ni non plus que l'homme soit la cause de ces inondations. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces inondations font bien plus de dégâts, d'accord ? Mais la raison de ces dégâts de plus en plus forts, c'est que les êtres humains ont la fâcheuse habitude de construire massivement dans des zones inondables.
Il y a plus de choses à détruire, donc forcément...
Exactement. Ouais. Ce que Björn Lomborg met aussi en avant dans son ouvrage, c'est la capacité d'adaptation des êtres humains. Et c'est ainsi, et là je vais revenir à ce que j'ai dit précédemment, que dans les années 20, les catastrophes naturelles tuaient 500 000 personnes par an. Ça rigolait pas.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est moins de 20 000 personnes par an. D'accord ?
Donc 500 mieux.
Bon, alors Mathieu, arrivé là, tu dois te demander comment je vais retomber sur mes pieds, sur le titre de ma chronique, d'accord ? Si ces deux auteurs font des analyses factuellement exactes, ouais. Où est-ce qu'on va ? On y va, t'inquiète pas. Alors, on va revenir à Steven Pinker au premier essai, d'accord ? Steven Pinker, il attribue à la philosophie des Lumières tous les acquis qu'il décrit. Alors, c'est pas totalement vrai, hein, parce que, par exemple, la révolution industrielle n'est pas le fait des philosophes des Lumières. Alors quand je parle des philosophes des Lumières, je parle des gens comme Voltaire, Diderot, Montesquieu, mais aussi Adam Smith, Kant, etc. Alors c'est pas le fait des philosophes des Lumières, mais cette posture lui permet de partir en guerre contre les penseurs d'aujourd'hui qui, selon lui, remettent en cause l'héritage des Lumières. Et c'est ainsi que dans la deuxième partie de son bouquin, il fustige le postmodernisme, la critique de la science, il fustige l'influence pernicieuse selon lui de Nietzsche. Le problème c'est qu'il le fait au prix d'une interprétation, d'accord, autant des philosophes des Lumières que des penseurs critiques d'aujourd'hui, qui tombent souvent dans la simplification. Alors un exemple, hein, les philosophes des Lumières, il les décrit de certaines manières, sauf que ce qu'il oublie de dire, c'est qu'ils n'étaient pas tous des philosophes athées, tous croyaient en Dieu, alors que lui, il a tendance à décrire un petit peu à l'opposé, parce que lui est athée. Autre exemple, il fustige l'ouvrage de Thomas Kuhn, qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques », sauf que cet ouvrage, que j'ai lu d'ailleurs, qui est un monument, n'est pas du tout un discours sur l'irrationalité de la science. D'accord. Donc il transforme un peu la réalité. Quant à Nietzsche, Nietzsche a beaucoup critiqué la philosophie des Lumières, mais il est aussi resté un très grand admirateur de Voltaire jusqu'à sa mort. Mmh. Donc les choses sont plus compliquées. Pour finir, Steve Pinker fait un chapitre sur les inégalités dans son ouvrage, qui reproduit un discours, tiens, qu'on reconnaît un petit peu quand on est un prof Patrick comme moi, hein, d'accord. Pour simplifier, le discours c'est... On a une baisse spectaculaire de la pauvreté, on l'a dit tout à l'heure, d'accord, ouais. Grâce à la mondialisation, ça vaut bien un peu d'inégalité en plus, vous n'allez pas nous faire chier les pauvres.
Ouais,
voilà, bon, d'accord. J'ai simplifié un peu, mais c'est son discours, en quelque sorte.
On en revient à salaud de pauvre.
Un petit peu, ouais, c'est vrai. Alors donc, on ne se situe plus dans la simple recension d'éléments factuels, comme tu le vois, mais là, on se situe dans un vrai discours politique, un discours qui est fondé sur une vision du monde spécifique, et parfaitement légitime, hein, on est d'accord. Alors Mathieu, on va garder Björn Lomborg, le deuxième Lascar, bien au chaud pour la chronique de la semaine prochaine. Parce que pour lui, il faudra aussi placer un petit sauf-que, hein, des familles. D'accord. Et le petit, un petit peu. Cette promesse, c'était de vous expliquer pourquoi la science économique était incapable de penser les grands problèmes de notre monde. Tu te souviens peut-être,
ouais.
J'avais parlé notamment du krach de 2008 et j'avais dit que je parlerais du réchauffement climatique.
Ouais.
Eh bien, merci Björn, semaine prochaine, tu m'en fournis l'occasion, on parlera de ça. Mais concluons, et pour conclure, revenons à cette idée que la personne de droite ne trouve pas nécessaire de changer le monde. D'accord ? La personne de droite, en gros, elle a une vision d'un monde qui évolue selon des principes assez analogues à l'évolutionnisme de Darwin, c'est-à-dire un monde fondé sur la compétition, la sélection naturelle et que le meilleur gagne.
Ouais.
Et Steven Pinker nous en apporte des preuves factuelles et chiffrées du fait qu'il en ressort du mieux. Très bien. Mais bon, derrière cette vision un petit peu superficielle, la réalité, c'est que le monde évolue aussi grâce à des combats qui sont menés par des rebelles, qui sont menés par des militants, qui sont menés par des gens insatisfaits, qui, c'est vrai, ces gens-là ont tous une vision un peu noire des choses. C'est vrai. Mais même si les Pinker et compagnie s'obstinent à regarder ailleurs, il est incontestable que les combats des insatisfaits ont massivement contribué à améliorer nos sociétés. Plus de démocratie, moins d'injustice, moins d'inégalité, des combats en cours contre les destructions environnementales et des combats pour inventer une autre société. Comme le dit Bill Gates, pour améliorer le monde, il faut que quelque chose vous rende furieux. Alors, l'optimisme n'est sans doute pas de droite, mais il peut être une arme rhétorique dans un discours de droite. J'en ai fini, Mathieu.
C'est vrai, c'est bien vu. Merci beaucoup, prof Patrick.
C'est un plaisir. Salut les auditeurs.
À très bientôt. Ciao, ciao.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessible.
Le prof Patrick.
Allez, on continue. Petite pause musicale avant de parler de cinéma. Sarah Mikowski, mon mec d'extrême droite.
Il sait pas ce qu'il rate, mais les gens dans les boîtes croient que la terre est plate. Mon mec d'extrême droite et moi dans mon transat, je l'écoute qui blablate. Pourtant il kiffe mes nattes. Mon mec d'extrême droite, il est mignon tout plein. Sous son pull bleu marine, dans son dernier bulletin, y avait marqué Marine. Et comme les mecs de gauche étaient tous déjà pris, j'ai passé l'arme à gauche et j'ai choisi Thierry. Il est épouvantable avec toutes ses idées. Je le cache sous la table quand y a des invités. Quand il veut m'énerver, il me parle de Wauquiez. Et quand on fait l'amour, il cite Éric Zemmour. Il sait pas ce qu'il rate. Mais les gens dans les boîtes croient que la terre est plate. Mon mec d'extrême droite et moi dans mon transat, je l'écoute qui blabla. Pourtant il kiffe mes nattes. Mon mec d'extrême droite, il a un arsenal pour quand ça va péter. Il trouve ça normal de pouvoir riposter. Tous les soirs il radote sur les gens dans la rue. Le matin rebelote, ce pays est foutu. Les diamants qu'il convoite, le pétrole qu'il miroite, tous les noirs qu'il exploite et les serbo-croates, les roms qui se débattent, les arabes des Carpates. Dès que ça a le teint mat, il s'écrit pas les pattes. Non, il sait pas ce qu'il rate. Mais les gens dans les boîtes croient que la terre est plate. Mon mec d'extrême droite et moi dans mon transat, je l'écoute qui blablate. Pourtant il kiffe mes nattes. Mon mec d'extrême droite. Extrême droite.
Sarah Mikowski avec les petits oiseaux qui font cucui. C'était le titre Mon mec d'extrême droite.
Vive le cinéma.
Ensemble sur Calade.
Vive le cinéma.
Non, c'est plus.
Vive le cinéma!
Et pour nous parler ciné, c'est Pauline Lavenir qui est avec nous. Bonjour Pauline.
Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, dans notre chronique cinéma, on va vous parler des films à l'affiche du cinéma Les 400 coups de cette semaine et surtout de deux nouveaux films qui sortent en salle aujourd'hui. La première sortie de la semaine, c'est Des Hommes, un film de Lucas Bellevaux avec Gérard Depardieu, Catherine Fraud et Jean-Pierre Daroussin, d'après le roman du même nom de Laurent Mauvignier. Ce film nous raconte l'histoire d'hommes qui ont été envoyés en Algérie pendant la guerre d'indépendance algérienne entre 1954 et 62. Ce film résonne parfaitement avec la problématique des pays anciennement coloniaux et des violences exercées sur les colonisés. En ce moment, on parle beaucoup de la reconnaissance de la responsabilité de la France sur le génocide au Rwanda en 1994, car la France n'a toujours pas reconnu d'avoir soutenu le gouvernement Hutu contre les Tutsis pendant la guerre civile au Rwanda et surtout pendant les génocides des Tutsis. On parle également aussi depuis quelques années de la reconnaissance de la France dans les violences faites aux Algériens pendant la guerre d'indépendance, car la France refusait d'abandonner cette colonie. C'est ce dont nous parle le film, à travers ces deux hommes qui ont été envoyés en Algérie quand ils avaient 20 ans et qui ont vu les violences faites aux Algériens et qui se sont tus par la suite par patriotisme. Ils se battaient pour la France et suivaient les ordres qu'on leur donnait. Ces hommes, à présent âgés, se rendent compte à quel point cette période les a profondément marqués, traumatisés, et ils ne peuvent plus rester dans ce silence de ce qu'il s'est passé. Ces secrets finissent par ressurgir dans leur comportement, surtout pour le personnage joué par Gérard Depardieu, qui est profondément touchant dans ce rôle. À travers ce film, nous pouvons voir à quel point le cinéma est un média incontournable dans les questionnements sociaux, car il permet, par de bons acteurs, de nous faire vivre les événements, bien plus qu'avec un livre d'histoire.
Je pense à l'Algérie, je pense à nos 20 ans. On ne s'aimait pas beaucoup et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait. Depuis toujours, c'était comme ça.
Ils sont tous là, à part les morts.
Bernard, arrête.
Oui, bien sûr, qui peut être là, le crouille.
Tais-toi. Tais-toi. Fous le camp.
T'as toujours été comme ça.
Une famille de fous, ça qu'on est. Il nous a même pas présenté sa femme. Il était tellement jeune. Fou furieux, rigide.
Tu ferais quoi si on t'empêchait de travailler? Tu ferais quoi si on occupait ton pays?
On se bat pour la France.
Il est comme il est, mais il a toujours été gentil avec moi.
Je t'ai écrit tout ça. L'ennui des corvées, ceux qui buvaient jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Les tours de garde, le soleil qui tournait, la chaleur, la poussière. Mais le reste, non.
Et les faits, ils sont où?
Et je ferai jamais.
C'est pas des hommes qui font des trucs pareils, c'est des chiens.
Ça, on peut pas le raconter. Parce qu'il n'y a pas de mots pour raconter ça. Il n'y a pas de mots. On peut pas le dire. On peut même pas l'imaginer. Les hommes avaient fait ça.
Ce film nous permet de nous faire réfléchir sur notre histoire collective en tant que citoyens français et permet de parler de quelque chose dont on ne parle que récemment et qui est entouré de secrets. La deuxième sortie de la semaine, c'est le film Petite Maman de Céline Sciamma. Ce film nous raconte l'histoire de la petite Nelly, 8 ans. Avec ses parents, elle part vivre dans la maison de sa grand-mère qui vient de décéder afin de vider la maison. Elle découvre alors les affaires d'enfance de sa mère avec elle. Cette perte est difficile à vivre pour la mère de Nelly, et malgré l'amour profond qu'elle lui porte, la tristesse ressentie par sa mère la pousse à partir soudainement. Nelly reste alors seule avec son père dans cette grande maison dans les bois, mais pas pour longtemps. En effet, Nelly va faire une rencontre marquante, celle de Marion, une autre petite fille qui s'appelle comme la mère de Nelly et avec qui elle va créer une belle amitié où elles prennent soin l'une de l'autre et sa nouvelle amie va l'aider à apaiser le départ brusque de sa mère. Ensemble, elles vont jouer, faire des cabanes dans les bois, du bateau et chuchoter au milieu de la nuit. Une douce amitié d'enfance.
C'est quoi?
C'est mes trucs d'enfant. Elle avait tout gardé.
T'étais pas la reine de l'orthographe. Maman, tu la faisais où ta cabane?
Dans les bois, juste derrière.
Ça te fait de la peine d'être ici?
Je l'aimais bien, cette chambre.
Moi aussi, je suis triste.
Elle a préféré partir ce matin. On a décidé que ce serait mieux comme ça. J'ai une mission pour toi. Le placard, dans le couloir. Comme ça, on part vite d'ici, puis on la retrouve.
Tu viens m'aider? Je t'avais jamais vu avant. Tu m'as pas dit comment tu t'appelais? Nelly. Je suis chez ma grand-mère. Elle est morte la semaine dernière. J'aime bien faire des petites tiges de chocolat et les manger. J'ai retrouvé l'endroit de la cabane de maman. On parlait jamais de quand vous étiez enfant.
T'exagères, on te raconte tout le temps.
Non, mais c'est que des petites histoires. J'ai un secret. Je suis ton enfant. Tu viens du futur? Pourquoi je dorme chez elle?
Quand?
Je sais pas, elle m'a pas encore invitée. Je pense déjà à toi. Je suis contente qu'on se soit rencontrés.
C'était la bande-annonce donc de Petite Maman. Ce film nous parle d'une belle amitié d'enfance, un sujet merveilleux, malgré la douleur du départ de la mère de Nelly et cette vie dans la maison de sa grand-mère pour un temps indéterminé. C'est un film touchant sur l'enfance, la famille et l'amitié. Nous pouvons rappeler que les films Balloon, Adieu les cons, Drunk, ADN, 2 et Joseph, dont nous avons parlé la semaine dernière, sont toujours à l'affiche du cinéma des 400 coups de Villefranche.
Très bien. Merci beaucoup, Pauline, pour cette rubrique. À la semaine prochaine. À bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah, il nous reste quelques minutes avant de se dire au revoir. On va se quitter avec un peu de groove. Voici Wolfpack 1612.
Sinatra. 16, 12. That's cool to my heart. I go 1, 6, 1, 2. Ooh, star. 16, 12. That's cool to my heart. I go 1, 6, 1, 2. Star.
Nous chante Wolfpack sur Calade. C'est la fin de cette émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous la retrouverez bien sûr en podcast sur radio-calade.fr et puis en réécoute demain matin à 10h. Rendez-vous pour un nouveau direct demain 12h12. D'ici là, prenez soin de vous. À demain, ciao ciao.
Ensemble sur Calade 100.9 Calade.